Il n'existe pas de véritable idole sans mystère. La preuve, il existe un mystère à Jenny comme il y a un mystère Étienne Dao. Dao, ancien ou éternel jeune homme, au choix raffiné mais populaire, sombre mais léger, dont l'œuvre entêtante est depuis 35 ans une suite de renaissance. Dao, mélodiste et parolier touché par la grâce, qui avoue être un homme de turbulence sous ses airs de dandy secret. 23 ans après la sortie de l'album Eden, Étienne Dao nous propose un coffret de 3 CD remasterisés en édition limitée, coffret qui sort le 18 octobre et qui reprend les titres de cet album mal aimé devenu culte Eden, agrémenté de 40 bonus et 21 inédits. Et puis dans la foulée, bien sûr, une tournée somptueuse démarrera le 25 octobre qui passera par la Philharmonie de Paris le 11 novembre et par la salle Pléliel le 23 décembre. Et bien ça mérite bien de se parler avec le cœur. Bonjour Étienne Dao.
Bonjour.
Étienne Dao, franchement, elle est novatrice cette démarche. Jamais les artistes n'osent reprendre les créations, j'ai envie de dire incomprises, d'un chapitre presque lointain de leur vie pour en faire le miel de leur présent.
Oui, mais toute cette histoire est en fait un hasard. Ça a commencé en 2006, en fait, où Les Inrecuptibles, le magazine, m'a demandé de jouer un ancien album qui s'appelle Pop Satori. Et donc j'avais un petit peu peur de regarder dans le rétroviseur, ça me semblait trop tôt, et c'est un peu comme un vertige de regarder en arrière. Je l'ai fait, c'était un peu étrange, parce qu'en fait on se confronte à la nostalgie du public, et c'est très, très bizarre. Et récemment, la Philharmonie m'a demandé de faire un projet scénique. Donc il a été question à un moment de refaire Le Condamné à mort, qui était une œuvre que j'avais jouée avec Jeanne Moreau.
Oui, d'après le texte de Genet.
Et sans Jeanne, on ne peut pas trahir Jeanne, donc je ne voulais pas le faire. Et j'ai proposé de rejouer Eden, qui est un disque qui est important pour moi, qui est comme un acte 2 dans ma vie. Et tout s'est enchaîné très vite. Ce petit pas de côté est devenu une tournée, parce que mon manager est aussi tourneur. Et m'a dit, bon voilà, c'est toujours très frustrant de faire un concert, c'est tellement de travail pour une date seulement.
Donc il y en aura 19.
Et donc voilà, il y en aura 19. Au départ, je n'étais pas très emballé par l'idée de retourner sur scène, comme j'ai tourné il y a un an. Ça me semblait un peu trop proche. J'avais l'impression d'être un peu trop présent. Et puis finalement, je suis laissé séduire et finalement, je suis très très content.
Mais alors, c'est quand même assez singulier. Pourquoi et comment un album mal aimé à sa sortie en 96 est-il devenu au fil du temps un des albums favoris de votre public?
Je crois que ça a à voir avec le style. Les gens ont eu la sensation que c'est une rupture de style. En fait, alors pas du tout. On parlait tout à l'heure de Pop Satori, qui est un album qui a été fait à Londres avec un producteur de musique électronique qui s'appelle William Orbit et avec un partenaire qui s'appelle Arnold Turboust. Et ça a été comme l'autre face de la médaille de ce premier album Pop Satori. C'est la même chose, c'est le même état d'esprit. C'est l'envie d'attraper l'air du temps. Moi, je suis vraiment très, très sensible à l'air du temps. Je l'avale comme ça, j'en ai besoin. Et d'essayer de mettre dans des chansons, parce que c'est important de faire des chansons avec des mélodies et capturer une émotion. Et quand même de métisser ces chansons avec les rythmiques qui sont en train de passer, d'arriver. Et la sensation aussi de faire partie de quelque chose qui avance.
Alors, parlons justement de l'air du temps, Étienne Dao. Les Français, on va se le dire, ne sont pas très à l'aise avec la pop. Ils vont plus spontanément vers le rap, le rock ou la variété. Bien sûr, il y a de belles histoires d'amour avec Paul Naref, avec Alain Chamfort, avec Souchon, avec Woolsey. Mais depuis 40 ans, vous n'êtes pas si nombreux en France à faire vivre la pop, même si la pop est un genre plus perméable aux autres courants musicaux que le rock, par exemple. Mais pourquoi les Français sont-ils moins pop que les Anglais ?
Alors, je crois qu'on appelle pop de la chanson française métissée à des rythmes anglo-saxons. En fait, c'est vraiment la définition de la pop en France, qui n'est pas du tout la même outre-Manche. La pop, c'est très associé au rock la plupart du temps. Et cette définition, elle enferme un petit peu. Et en même temps, le terme pop, qui est un terme que j'ai choisi quand j'ai commencé à faire la musique, ça me permettait d'avoir un immense terrain de liberté. C'est-à-dire que si je faisais du reggae ou la valse musette, ça resterait quand même de la pop. Donc tous les coups sont permis. Donc, pour moi, c'est génial de faire de la pop, en fait. Parce que je peux absolument tout faire.
Vous
la
êtes
musique
plus
électronique,
libre. Voilà,
ou de la chanson.
Vous êtes plus libre en faisant de la pop qu'en faisant du rap, par exemple. Eden en est la preuve.
Voilà, c'est une liberté. Ouais, c'est une liberté. Effectivement, quand on se définit par rapport à un style musical, on a tendance à rester enfermé dans ce style musical. Et moi, je n'avais pas envie de ça, du tout.
Étienne Dao, est-ce que c'est compliqué d'être à la fois raffiné et populaire?
Alors, est-ce que je suis raffiné? Je ne sais pas.
Vous êtes les deux.
Populaire, j'aime bien. Populaire, j'aime bien.
Mais
parce que
exemple,
ça veut dire qu'on a créé un lien avec les autres.
Bien sûr. Et
voilà, être artiste, c'est un peu ça quand même.
Mais grave et léger, c'est votre nature, hein, ouais. À la fois sombre et solaire. Raffiné et populaire, ça vous échappe presque. Parfois, vous dites, en fait, on m'a élu. Le public m'a élu.
Ah oui, mais c'est ça. Quand vous êtes là depuis longtemps, je pense que les gens vous accordent une place. C'est les autres qui vous donnent une place. On peut faire les meilleurs disques du monde. si le public ne vous choisit pas, l'histoire ne se fait pas.
Alors c'est comme l'intuition de l'artiste pour composer une chanson, par exemple. Une chanson qui aurait des chances d'être un tube. La mécanique, elle reste toujours mystérieuse?
Oui, toujours. Ouais. Malgré tout, moi j'ai quand même une culture du tube. J'écoutais le hit parade d'Europe 1 quand j'étais petit à la radio. J'avais l'oreille collée au transistor et puis... Enfin, à l'époque, on n'avait pas le téléphone, mais j'aurais bien voté pour les gens que j'aimais bien. Et je me souviens, j'avais un carnet où je notais les places des artistes que j'aimais bien.
Alors, culture du tube, dites-vous.
Culture du tube, et puis même tout ce que j'aimais au-delà des artistes français. Il y a pas mal d'artistes étrangers qui avaient plein de tubes. Les Beatles, les Stones, les Beach Boys, tout ça. Bah, c'est ma culture, vraiment.
Et on parlera tout à l'heure du Velvet Underground, bien sûr.
3 minutes 30, essayer de cerner... une sensation et essayer de faire un truc bien troussé comme ça en 3 minutes 30, ça m'a toujours passionné. Une espèce de mécanique que j'aime bien.
Mais au fait, Étienne Dao, rarement la chanson de son répertoire que préfère un artiste est celle que préfère le public. Ça vous est arrivé parfois que le titre que vous préférez sur un album soit celui qui a la préférence du public?
C'est plus rare.
Alors ça, vous l'expliquez comment?
Ceci dit, je ne peux pas le décider moi-même parce que c'est le public qui décide si c'est un tube ou pas. Je ne sais pas. J'ai l'intuition que certaines chansons sont assez radiophoniques.
Oui.
Ça, je peux identifier ça. Mais après, ce que ça deviendra...
Plombé, le ciel est déglingué. Je suis comme un chien. Don't de mon mal.
Le 7 novembre, d'un livre-disque qui est véritablement un bijou et qui va ravir les petits et leurs aînés. Lui, un petit canard, d'après le conte d'Andersen, divinement illustré par Olivier Talec et mis en musique par Étienne Dao, bah, avouez que tout ça mérite bien de se parler les yeux dans les yeux. C'est formidable parce qu'on a une heure tout à nous. Alors, cher Étienne, vous dites, ce sont les premières années d'une vie qui vous construisent et puis après, bah, après on se démerde et on fait ce qu'on peut. Alors, tout avait pourtant bien commencé. Vous êtes né à Oran. Oran qui, à la fin des années 50, semblait encore épargné par les événements d'Algérie. Votre maman, Lucie, était une beauté aux yeux verts, d'origine andalouse. Et puis votre père, Étienne, militaire, d'origine kabyle, avait hérité à 20 ans d'une jolie fortune familiale. Il était si heureux d'avoir un fils qu'il avait décidé de lui donner son prénom. Voilà. Et puis pourtant, votre père, eh ben, vous ne vous souvenez l'avoir vu en fait qu'une fois. Le jour où il est venu vous dire adieu, vous aviez 5 ans, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Mais on se construit avec les absences. Hein. On devient l'absent. Moi, j'ai l'impression d'être devenu mon père, en fait.
Vous êtes devenu votre père.
Oui, mais parce qu'en fait, je pense qu'on a une force à l'intérieur de soi qui nous permet de surmonter l'absence, qui nous permet de surmonter les chaos de l'enfance.
Vraiment. Il était heureux de devenir père. Il voulait que son fils s'appelle comme lui, Étienne Dao.
Oui.
Il était trop jeune, c'est ça?
Je pense. Et puis, c'était un couple extrêmement mal assorti, je pense. On ne peut pas faire plus différent que mes parents. Mon père était un hédoniste, un fêtard. La vie lui a fait le cadeau d'avoir une aisance matérielle qui lui a permis de s'amuser et aussi d'entraîner dans son sillage tous ses amis qui avaient moins de chance que lui. Ma mère, au contraire, est une femme très...
structurée.
Très rigide, pas du tout... assez sauvage, qui n'aime pas particulièrement sortir. Enfin, vraiment, ce sont deux personnes... Qui n'avaient pas grand-chose à faire ensemble, en fait.
Alors, vous avez été élevé par un solide clan de femmes latines, puisque votre maman est d'origine andalouse, des femmes plutôt dures à la tâche. Donc, votre mère, une grand-mère, 4 tantes et 2 sœurs aînées, un véritable matriarcat.
Ah oui, ça.
Il y avait beaucoup de disques à la maison.
Il y avait beaucoup de disques à la maison. Ma mère écoutait beaucoup de musique. Elle chantait beaucoup aussi. Elle avait une très jolie voix.
Ouais.
Et mes grandes sœurs ont commencé à acheter des disques... d'abord, on a commencé à écouter tous les yéyés, bien sûr, donc tous ces 45 tours magiques. Et ensuite, toute la pop anglo-saxonne. Et puis aussi
on pouvait acheter facilement tous ces disques-là à Oran.
Ah oui, bien sûr. Et puis aussi, toute la soul un peu pop, toute l'école Motown.
Et ça, ce sont vos sœurs aînées qui les achetaient, n'est-ce pas? Parce qu'elles
ont tout à fait.
Quelques années de ça. Plus que vous.
Elles, elles avaient moins 4 ans plus que moi. Donc, elles étaient, c'était déjà des grandes par rapport à moi.
Alors, en 62, Oran change de visage, car la guerre est là, à tous les coins de rue. Il paraît qu'on vous apprend à courir en vous baissant, à faire le dos rond quand vous êtes en voiture, à ne jamais rester devant une fenêtre, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est vrai, oui. Mais pour un enfant, c'est un jeu tout ça. C'est-à-dire que le monde de l'enfance transforme tout ce qui est dangereux. Donc je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de dangereux, même si je sentais... bon, par exemple,
la terreur des adultes.
J'étais pas très discipliné, je faisais des fugues. Mais donc on m'a mis dans une pension à l'âge de 4 ans et demi. Et c'est un moment où j'ai ressenti véritablement, pour la première fois, en fait, l'arrachement, l'inquiétude de ne pas savoir où étaient mes parents. Vraiment, ça, c'est un moment...
Vous y êtes resté combien de temps dans cette pension ?
Quelques mois, 4-5 mois.
Histoire de vous assagir, c'est ça ?
Non,
de vous préserver.
De me préserver, plutôt. Ça partait d'une très bonne intention, mais c'était un peu tôt, quand même. Mais bon, dans un moment, dans un climat, dans un moment de l'histoire comme ça, on fait comme on peut.
Alors Étienne Dao, on va continuer d'agiter les souvenirs. On vous a quitté, vous étiez donc à Oran, nous sommes en pleine guerre d'Algérie, vous avez 7 ans, l'immeuble que vous habitez est vide, intégralement vide parce que les voisins ont fui, mais votre mère et vous êtes obligés de rester car votre père vous a abandonné sans divorcer. Et il a emporté tous les papiers. Donc vous ne pouvez pas quitter l'Algérie.
Oui, parce qu'il fallait une autorisation paternelle pour pouvoir rentrer en France. Et donc ça a été un peu compliqué.
Vous l'avez eu ou pas cette autorisation ?
Oui, j'ai fini par avoir une autorisation. Je ne sais pas si c'est la réalité, parce qu'en fait, ce sont des sensations. J'ai eu la sensation d'être rentré clandestinement. Et encore, parfois, quand je voyage, quand j'arrive à une douane... J'ai cette espèce de petite chose qui gratouille. voilà.
Clandestinement et sans votre maman.
Oui, je suis rentré avec
Vous aviez 8 ans. C'est la première fois que vous montiez dans un avion. Et il paraît quand même que vos papiers ont été un petit peu falsifiés, n'est-ce pas ?
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Voilà.
Et votre maman, combien de temps est-elle restée bloquée en Algérie avant de pouvoir vous rejoindre ?
Elle est restée un an. Un an de plus.
Donc vous avez atterri sur le sol français, dans la
d'abord à Paris,
froid dur,
où j'ai retrouvé mes grands-parents, et puis ensuite à Reims, dans une école religieuse, très très sévère, ce qui faisait un choc énorme en fait avec la scolarité en diagonale que j'avais pu faire dans un village de plage qui s'appelle Cap Falcon, et qui est une espèce de chose paradisiaque.
À une demi-heure d'Oran.
À une demi-heure d'Oran, donc le choc a été un petit peu rude. Et on se sent différent.
Et on vous a bien fait sentir que vous étiez différent.
Oui, mais en fait, j'ai très vite senti, grâce justement à l'attention que m'a donnée ma tante et mon oncle, qui étaient jeunes mariés et qui se sont occupés de moi, ils m'ont transmis d'abord la culture. J'ai commencé à lire des livres de poche. J'ai écouté la Bibliothèque verte très vite.
Oui.
Et j'ai lu mon premier livre de poche à l'âge de 8 ans. Ils m'ont donné le goût de la lecture et puis aussi l'envie de savoir... Enfin, ils m'ont appris à me défendre, en fait. Et une manière de se faire accepter aussi à l'école, c'était d'être bon en classe. Et donc, je me suis défoncé vraiment pour être dans les 3 premières classes. Et c'était un drame à chaque fois parce que je n'arrivais pas à être deuxième. J'avais la rage, quoi. Mais ça a marché.
Quel beau carburant !
Ça a marché, ouais. La culture et l'envie d'être meilleur.
D'être meilleur.
Ouais, vraiment.
Et puis là où le destin fait bien les choses, c'est que le mari de votre tante, finalement, a été muté à Rennes,
oui,
n'est-ce pas ?
Exactement.
Donc vous allez grandir, en fait, dans une ville qui est celle où naissent tous les groupes de rock. Comme s'il y avait une espèce de... comme des forces, une énergie tellurique dans cette ville qui fait que, forcément, on veut entrer dans la lumière en clamant sur de la musique.
Oui, c'est étrange, mais j'ai l'impression que vraiment toute mon existence est comme ça, en fait. Des bonnes rencontres, des bons événements, même s'ils semblent mauvais, a priori, ils se transforment en quelque chose de bien. J'ai une existence vraiment, je trouve, très particulière et très, très satisfaisante, en fait. Non, c'est vrai, le fait de se retrouver à Rennes, a été une chose très importante, parce que quand j'ai été adolescent, j'ai commencé à faire de la musique. Et cette ville a commencé, parce que c'est une ville d'étudiants en fait. Donc il y a des étudiants qui arrivent de partout. Et ça fait des forces, ça fait des groupes, ça fait vraiment ça crépite, quoi. Ça crépite. Vraiment.
Alors, vous aviez 12 ans, n'est-ce pas, quand, en fait, pour la première fois, on va dire, vous avez entendu chez un disquaire The Piper at the Gates of Dawn, le premier album des Pink Floyd.
Oui.
Ça a été un électrochoc.
Ah oui, vraiment, j'adorais aller dans les magasins de disques, regarder les 45 tours, les albums, ça me faisait vraiment rêver. Hein.
Mais particulièrement celui-ci a inoculé un virus. Qu'est-ce qui s'est passé soudain ?
J'ai entendu une musique qui m'a fait rentrer dans un autre monde, véritablement. Mais cet album aussi parle beaucoup du monde de l'enfance. C'est un peu Lewis Carroll sous acide, en fait. Il y a vraiment une chose comme ça, quoi. Quelque chose qui est un peu...
Mais encore, faut-il comprendre le texte qui était
chanté
en anglais.
Je ne comprenais pas le texte, mais la musique. Tout ce que disait la musique me faisait rentrer dans un autre monde. Et je suis allé voir le vendeur et je lui ai dit je voudrais acheter ce disque, mais je n'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me le garder ? Et donc, je venais verser des arts... pendant des mois, des
mois. Vous avez mis combien de mois à l'acheter cet album des Pink Floyd ?
Longtemps. Et je suis rentré avec le trophée à la maison quand même.
Oui, c'était pas un album, c'était un trophée.
J'ai écouté ce disque pendant tous les jours, pendant des années.
Et ensuite, nouvel électrochoc avec le premier album du Velvet Underground, celui avec la fameuse banane rose dessinée par Andy Warhol. Alors, cher Étienne Daho, puisque, bien sûr, il s'agit de vous. Avant de reparler musique avec la découverte de Chet Baker, de Londres, des punks, puis des Stinky Toys et de Mark Itzad, et puis de la découverte de la scène au Transmusical de Rennes, il faut d'abord clore le chapitre familial. Nous sommes en 1986, vous chantez en vedette sur la scène de l'Olympia, n'est-ce pas ? Première consécration. Et juste avant d'entrer en scène, on vous avertit qu'un homme qui prétend être votre père, souhaite vous voir après le concert. Seulement, bah, votre père, vous l'avez vu, en fait. La dernière fois que vous l'avez vu, vous aviez 4-5 ans, c'est ça ? On vous avertit, vous êtes à quelques pas de la douche de lumière et du public. Comment on entre en scène après une telle annonce ?
C'était très dur, très difficile. Parce que je savais que mes parents ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Donc c'était aussi à ça que je pensais, au choc qu'aurait ma mère. C'était surréaliste, quoi. Et vraiment, c'était très étrange parce que c'était la première fois vraiment que j'avais un Olympia pendant une semaine. C'était vraiment un moment de... C'était vraiment les débuts du succès vraiment massif. Et donc un moment de joie. Et c'était la dernière de l'Olympia où il y avait une fête après. On me remettait un disque de platine. Enfin,
ouais.
Il y avait tout un truc comme ça. Et vraiment, j'ai été ramené à l'état de petit garçon... comme ça, en 3 secondes. Et ça a été très difficile, vraiment.
Mais vous avez donc fait savoir à votre père qu'il ne devait pas chercher à entrer dans votre loge. Vous ne vouliez pas le voir.
Après
vous
le concert,
deviez
oui.
bien vous douter que vous regretteriez cette décision brutale, non ?
Oui, mais c'était un élan spontané. Je savais que ma mère était là, je n'avais pas du tout envie de les remettre en... Voilà, de les remettre ensemble. Enfin, je veux dire, j'avais peur de cette confrontation. Et c'était trop tard.
On était venu vous prévenir, vous, mais votre maman était avertie également que votre père était là.
Je ne me souviens pas, je ne sais pas.
Est-ce qu'il a attendu ?
En tout cas, j'ai essayé de l'épargner.
Est-ce que vous pensez qu'il a espéré ? Ou bien est-il parti
très
vite ?
Oui, bien sûr, je pense, je ne sais pas. De toute façon, c'est extrêmement brutal. Ma réaction a été extrêmement brutale. Je l'ai regretté, bien sûr. Mais en même temps, j'ai réagi comme je pouvais à ce moment-là. Avec la maturité de ce moment-là,
je
n'aurais peut-être pas fait aujourd'hui.
On retrouve tout de suite Étienne Daho.
Étienne Daho, invité exceptionnel d'Isabelle Morizet, aujourd'hui et demain, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Et la conversation se poursuit pour quelques minutes encore.
Étienne Daho, on vous a quitté à l'instant dans votre loge à l'Olympia. Vous avez vécu un concert absolument surréaliste ce soir de l'année 1986, car juste avant d'entrer en scène, on est venu vous prévenir que votre père, qui vous avait abandonné quand vous aviez 5 ans et que vous n'aviez jamais revu, votre père est donc là et veut vous parler. Vous êtes totalement chaviré, vous refusez. Ce père qui vous a donné pas seulement son nom, mais également son prénom, les a donc vus en lettres de feu au fronton de l'Olympia. Son fils est devenu une star. Donc ça a dû être un moment surréaliste pour lui de prendre la mesure de ça.
Je pense, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec lui. J'en ai fait une chanson, parce que on m'a remis des lettres que je n'avais jamais lues, qui m'étaient adressées, à un moment où j'écrivais un album qui s'appelle L'Invitation, Et j'ai
peu de temps après son décès, n'est-ce pas ?
Oui, ouais. Et j'ai fait une chose extrêmement curieuse, c'est-à-dire que j'ai écrit cette chanson en m'inspirant de sa lettre et en inversant les rôles, en fait. C'est-à-dire, je me mets dans le rôle de mon père.
Ouais.
Et c'est une chanson qui m'a fait un bien fou. Je me souviens que quand j'ai écrit le dernier mot, j'étais à Ibiza, dans une maison que je louais, et il y a eu un déluge absolument incroyable, mais vraiment un déluge et un soleil en même temps. Et c'était une espèce de libération. Je revois ce moment en fermant les yeux. C'était un moment incroyable. Et ça m'a beaucoup soulagé, parce qu'en fait, c'est une chanson de pardon.
Ouais.
Alors, j'avais pas l'intention de la publier du tout, et puis les gens autour de moi m'ont dit « Ah ouais, cette chanson, serait bien que tu l'inclues dans le disque. » Bon, je me suis laissé un peu convaincre. Et quand la chanson est sortie...
Vous ne vouliez pas l'interpréter sur scène, n'est-ce pas ?
Non. Et surtout quand elle est sortie, en fait, quelques journalistes pensaient qu'en fait, je voyais un artiste émergent. Je pense qu'ils ont dû penser à Benjamin Biolay ou quelque chose comme ça. Au bout de 3-4 interviews, vraiment, ça m'a gonflé de me dire, voilà, on est vraiment...
Donc vous avez raconté la genèse.
Donc j'ai raconté, et après, ça, après tout d'un coup, voilà, la porte s'est entrouverte, le pied dans la porte. Et ça, vraiment, pour moi, ça a été un peu... J'ai regretté pendant un bout de temps d'avoir publié cette chanson, parce que tout d'un coup, on ne parle pas forcément de soi.
C'est comme si on vous dépossédait de votre histoire si intime.
C'est pas tant ça que quand on parle de choses intimes, on parle des autres aussi. Je sais que par exemple, ma famille n'a pas du tout... Moi, je m'expose.
Oui.
Tant que je parle de moi et que je m'expose, tout va bien. Enfin, je veux dire, j'ai aucun problème avec ça. Mais tant quand on expose les autres, sa famille, sa mère, ses sœurs, etc., c'est différent.
Mais il est très pudique, ce texte.
Oui, mais en même temps, pour ma mère et pour mes sœurs, je pense que c'était un... Voilà, c'est des choses qu'on classe et qu'on n'a pas envie de revivre, et surtout de revivre en public.
Vous avez eu l'occasion de la chanter sur la scène de l'Olympia, boulevard des Capucines, justement.
Oui, je l'ai chantée.
Cette chanson,
ouais.
Là où votre père avait
tenté
de vous approcher.
Ça a été un moment très, très particulier. Pour moi et aussi pour le public, parce que je sentais vraiment une émotion qui était presque submergente. Et c'est là où je me suis dit, je la chanterai plus. C'est fini. Et puis après, je me suis apaisé avec cette chanson parce que on a toujours l'impression quand on raconte des choses qu'on raconte soi, qu'on est unique dans ce qu'on vit. Alors qu'en fait, non. On est vraiment, ça touche à l'universel.
Bien sûr.
Je me suis aperçu par la suite que beaucoup de mes amis, femmes et hommes, ont eu cette relation qui ne s'est pas faite avec leur père. Beaucoup. Et donc, je me suis dit, voilà, ça ne m'appartient plus. C'est universel et maintenant ça va. Ça va, je vis très bien avec cette chanson. Finalement.
Finalement.
Mais je voudrais rajouter une chose par rapport à cette chanson, c'est que en fait, elle a été perçue comme une chanson triste et que l'abandon, la guerre en Algérie, ça, tout d'un coup, ça devenait... c'était victimisant. Je ne sais pas comment vous dire. Alors que c'est une chanson sur le pardon. Donc le pardon, c'est quelque chose de très joyeux. C'est un cheminement de maturation.
Le ciel s'éclaire.
Et tout d'un coup, on peut parler des choses sans être affecté par ça. Mmh. Et voilà, on s'en libère, on le partage avec les autres. Et j'étais très, très gêné justement qu'on en fasse quelque chose de triste, quelque chose de vraiment de... Voilà, c'est genre le pauvre, il s'est fait abandonner par son père.
Mais tout au long, en fait, de votre vie, la musique a contribué à vous libérer, en fait, de poids. Vous dites que la musique vous a sauvé la vie.
Oui, mais je pense que c'est le cas de tous les artistes. C'est l'art de la transformation, le tout. Donc, pour le partager avec les autres.
Je te demande par cette lettre, mon garçon, de m'accorder ton pardon. Tu sais quelle connerie ma jeunesse, mon silence, quelle erreur, quelle perte de temps. Si je n'ai pas su te dire à temps que je pensais à toi tout le temps, mon guerrier, mon roi, mon petit prince. Épris de femmes et de vies légères, j'ai tant aimé, je suis sincère, l'étreinte de la liberté. Ni mari, ni père et volage, courant d'air de passage, sauras-tu me regarder? Mais tu ignores mes signes, toi mon cruel funambule. Alors je crache ces lignes, fracassées et somnambules. Je te demande par cette lettre, mon garçon, de m'accorder ton pardon. Tu sais quelle atrocité cette guerre, mon départ, quelle erreur, quelle perte de temps. Si je n'ai pas su te dire à temps que tu m'as manqué tout le temps, mon guerrier, mon roi, mon petit prince. Pardon.